Avec moi, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 4. Normand et moi allons reprendre l'exposition de l'Évangile de Matthieu dans deux dimanches. Cette semaine et la semaine prochaine sont deux dimanches spéciaux. Évidemment, ce matin, on relance toute l'instruction chrétienne, la formation, tout ça. C'est les petits groupes aussi qui recommencent. Alors, j'avais à cœur de tourner dans un passage particulier avec vous ce matin. Mais la semaine prochaine aussi. La semaine prochaine, on veut consacrer cette matinée comme dimanche des étudiants pour souligner le fait que nos enfants, mes tout-petits de 8-10 ans, mais aussi les jeunes gens retournent sur les bancs d'école, au cégep, à l'université, au secondaire, tout ça, et ils retournent dans leur champ missionnaire. Et nous voulons prier pour eux, on veut être sensibles à ça. Il y a des efforts qui se font sur plusieurs campus. Je regardais hier, j'étais en train de passer sur le pont Jean-Cartier avec la famille, je regardais le campus de l'Université Sherbrooke, qui est en train de se construire, c'est immense. On va avoir un ministère, Dieu voulant, à exercer à cet endroit-là aussi. Et donc, on va avoir des personnes comme Jessica et Lee qui vont venir nous parler de ça. Dimanche prochain, ça va être consacré spécialement à cela. Normand va prêcher à ce sujet afin qu'on puisse ensemble être avec eux, prier pour eux. Donc, deux dimanches matin spéciales. Ce matin, j'ai sur mon cœur de vous entretenir sur l'Église locale. Vous parler de l'Église locale, faire ensemble une mise au point avant de commencer l'année scolaire et s'assurer que notre focus et notre regard sont à la bonne place et qu'on puisse saisir encore un peu davantage la beauté du projet de Dieu. Vous savez que l'Église locale est le projet de Dieu par excellence pour faire connaître Dieu à tous les gens de cette ville. L'Église locale est le projet de Dieu par excellence pour faire connaître Dieu aux gens de toute cette ville. Et c'est le projet de Dieu. C'est au cœur de son projet. Dans Jean 13, au verset 35, le Seigneur Jésus a dit à ceux-ci, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour qui est en réalité l'Évangile vécu, l'Évangile au quotidien, c'est dans l'Église locale qu'elle se vit premièrement, qu'elle s'intègre premièrement, qu'elle se manifeste, cette transformation de vie. Cet amour, c'est dans l'Église locale, dans l'Assemblée que ça se vit. Pensez-y un instant. Une gang de pécheurs pardonnés, c'est ça que nous sommes, n'est-ce pas? Une gang de pécheurs pardonnés. Nous ne sommes pas mieux que le reste des hommes, en ce sens que nous sommes tous pécheurs. Et s'il y a une chose que tu réalises en grandissant dans la foi, c'est que tu es pécheur et qu'il reste énormément de travail à faire dans ton cœur. Alors, dans un sens, les chrétiens devraient être, je dis bien devraient être les plus humbles des hommes et des femmes sur la terre. Parce qu'on a été exposés à la croix. Parce que nous avons saisi la croix de Jésus-Christ et ça nous procure une humilité extraordinaire. Sans prétention, nous savons que nous sommes sauvés par grâce. Et les chrétiens, hommes et femmes, devraient être les gens les plus humbles sur la terre, tout simplement parce que à la croix, nous avons connu notre propre cœur. Alors pensez-y un instant, une gang de pécheurs pardonnés qui avancent ensemble, semaine après semaine, jour après jour, année après année, pour grandir ensemble et chercher à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Ça implique que nous nous rencontrons souvent, nous nous visitons, nous nous côtoyons, on s'encourage les uns les autres, on s'écoute, on se reprend les uns les autres avec beaucoup d'humilité. Nous sommes passés par la croix. Beaucoup d'humilité, on prie les uns pour les autres, on fait l'effort supplémentaire pour le Seigneur d'aller visiter un frère, une sœur à l'hôpital, une sœur qui vient d'avoir un enfant, on prépare un petit repas, on va aider une personne de l'Assemblée qui a besoin d'un coup de pouce pour faire du ménage chez elle parce que la personne n'a pas toute l'autonomie physique que moi je possède. Qu'est-ce qu'une telle Assemblée représente pour cette ville? Qu'est-ce qu'une telle communauté qui vit cela, représente pour cette ville. Vous savez, en ville, on court énormément. On court, on est pris dans l'action, on vit dans la foule, sans se connaître véritablement. C'est la place pour l'anonymat, la ville. Cette semaine, j'étais en train de penser à Hugo, mon frère qui est allé implanter une assemblée à Rivière-du-Loup. Et Hugo ne vit même pas dans la ville de Rivière-du-Loup, qui a déjà quand même, je pense, un agglomérat d'autour de 30 000 personnes ou quelque chose comme ça. Mais lui, il vit à Saint-Paul-de-la-Croix, 20 minutes de là, sur un rang. Et sur son rang, où les maisons sont distancées d'à peu près 500 mètres chacun, les gens se connaissent davantage que les gens qui habitent sur ma rue. C'est la ville. C'est la ville. La ville, c'est merveilleux pour tout ce qu'il y a à faire. C'est trépidant. C'est, la culture est là, ça n'arrête pas de bouger. Il y a 1 million de choses à faire, 1 million de choses excitantes à faire en ville. Et en même temps, c'est la place pour se perdre dans la foule et vivre de l'isolement. Je pense qu'il n'y a pas de solitude plus que dans les grandes villes dans le monde. Je crois que la solitude se trouve dans les grandes villes en général. Et je pense que toutes les études tendent à le démontrer. Alors imaginez une église, une gang de pécheurs, je le répète, pardonnés, qui vivent cet amour, ce support, ce soutien, pas refermés sur eux-mêmes comme pour se protéger de la ville, mais au milieu de la ville pour gagner cette ville à Jésus-Christ. Imaginez le témoignage que ça a. C'est ça l'église locale, c'est le projet de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix et donner sa vie. C'est pour l'église, cette communauté d'hommes et de femmes qui deviendrait l'Église, celle qui est souvent appelée dans le Nouveau Testament, l'épouse de Jésus-Christ. Tournez avec moi dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4. Et avant de lire les 16 premiers versets du chapitre 4, bien, je vais simplement vous placer dans le contexte, brièvement. Ça nous aide à comprendre cette portion-là. Alors, au chapitre 1, qu'est-ce que Paul a fait? Le chapitre 1 nous apprend, l'apôtre Paul nous apprend qu'avant la fondation du monde, bien avant la fondation du monde, Dieu nous avait élus pour devenir ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ainsi, avant même l'histoire de l'humanité, Dieu avait décidé qu'un jour son Fils viendrait offrir sa vie pour sauver des individus, des personnes, individuellement. Chapitre 2, Paul nous explique comment Dieu sauve ces personnes. Est-ce parce qu'elles sont plus brillantes, plus fines, plus smart que le reste des hommes? Du tout. Non. Est-ce que c'est parce que ces gens-là font de meilleures choses, une meilleure vie, des bonnes choses qu'elle allait faire que Dieu allait se sentir un peu coupable dans son coin et puis dire « Hey, celui-là, il faut que j'aille le chercher. » Il se démarque. Pas du tout. C'est en vertu de la grâce de Dieu. C'est une gracieuseté divine, le salut. C'est ce que Paul expose dans le chapitre 2 de l'Évangile de la lettre aux Éphésiens. Le salut est une gracieuseté offerte à celui qui croit dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est une gracieuseté céleste, un don immérité. Ensuite, Paul arrive au chapitre 3. Et Paul nous parle au chapitre 3 de l'Église. Maintenant, le mot Église vient d'un mot grec, ecclésia, qui a tout simplement été transposé dans le français. Et c'est un mot très simple qui veut dire assemblée. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'assemblée de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, de ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça l'Église, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a des églises un peu partout dans le monde. Presque partout dans le monde, il y a des églises. Et donc, il y a quelque chose qu'on peut perdre de la beauté de l'Église, simplement par habitude. Alors que Paul, au contraire, lui, est émerveillé devant l'Église au chapitre 3. Il est impressionné par l'Église. Il faut comprendre qu'avant la venue de Jésus-Christ, il y avait un peuple sur la terre qui était là pour porter le nom de Dieu. Lequel? Le peuple juif. Avant la venue de Jésus-Christ, un peuple avait été désigné parmi les hommes, choisi parmi les hommes pour porter le nom de Dieu. Au moment de la venue de Jésus-Christ, et c'est ça qui bouleverse Paul, avec la venue de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, toutes les barrières ethniques qui existaient sont tombées. Toutes les barrières de séparation sont tombées. En Jésus-Christ, tous les hommes et toutes les femmes de la terre sont invités à venir composer l'Assemblée de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Et je vous lis simplement quelques versets du chapitre 3 où Paul exprime cela. C'est Paul qui dit, en lisant ces versets, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, le mystère de l'Église. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Ce mystère, c'est que les païens, tous les non-juifs, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Avec la venue de Jésus-Christ, toutes les barrières qui séparaient les hommes tombent. Barrières ethniques, culturelles, la barrière du péché qui nous sépare, qui nous amène à vivre isolément, séparément les uns des autres. Elles tombent toutes en Jésus-Christ pour former une église, une épouse, un corps, un peuple de Dieu qui allait se reproduire localement un peu partout sur la terre. Un peu partout sur la terre. Et qu'elle ait représenté l'Évangile de Jésus-Christ dans sa vie même. Ainsi, Jésus est venu pour sauver des individus. Chapitre 1, d'accord? Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus. Jésus-Christ est venu pour nous sauver individuellement. Il est venu, c'est vrai, pour sauver des individus, mais pas seulement des individus. Pas seulement des individus. Il est venu pour sauver des individus qu'il rassemble, qu'il unit pour former son Église. Et chaque Église locale est là pour incarner et vivre l'Évangile. Le salut des individus dans les Écritures n'est pas une fin en soi. C'est juste une étape. C'est seulement une étape. Le salut des individus n'est pas une fin en soi. Lorsque Dieu sauve une personne, vient la transformer progressivement, c'est déjà extraordinaire de la connaître, de la côtoyer dans notre petit groupe. On a vu des gens ces dernières années venir à la connaissance de Jésus-Christ. C'est tellement touchant de voir tout ce que Dieu travaille dans leur vie, de voir leur émerveillement devant la parole de Dieu. C'est touchant, c'est beau à voir, mais la beauté de cette transformation-là dans la vie de chaque chrétien se manifeste vraiment dans la vie de l'Église, dans la vie du corps. Lorsque ces individus transformés par l'amour de Jésus-Christ vivent ensemble l'Évangile. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de programmes. C'est très en vogue depuis plusieurs années. Il y a toutes sortes de programmes de développement personnel aujourd'hui. C'est très à la mode. C'est l'affirmation de notre individualité qui est mise de l'avant. Passez chez Renaud Bré, Archambault, n'importe quelle librairie, il y a des sections entières pour ça. C'est pas sans importance. C'est pas sans importance. Mais c'est très en vogue et tout l'accent est placé sur l'individualité, l'affirmation de soi, le développement personnel. Dieu nous a créés comme des êtres sociaux. Pas comme des îlots qui vivent chacun de notre côté. Et la beauté d'un être humain se manifeste quand un homme, une femme est en paix avec Dieu et par conséquent avec lui-même. C'est là que l'affirmation de soi se fait, à la croix, et par conséquent est en paix avec les hommes et les femmes autour de lui. Tant que cet individu-là n'entre pas en relation avec les autres pour manifester les transformations intérieures, toute la beauté de ce que Dieu a créé ne s'exprime pas. C'est lorsqu'on commence à entrer en relation ensemble, à vivre en communion ensemble, à échanger ensemble, à grandir ensemble. Quand une personne a trouvé son rôle par rapport à Dieu et puis son rôle par rapport aux gens autour de lui. Ainsi, Dieu n'avait pas seulement comme projet de sauver des individus, mais il voulait créer une église, une assemblée qui incarnerait par sa vie commune l'Évangile de Jésus-Christ. Et là, on arrive au chapitre 4. Là, on arrive au chapitre 4 et Paul va nous décrire comment il la voit. Comment il voit cette Église-là, qui est tellement glorieuse, qui est tellement belle et qui doit avoir cet impact dans la ville, auprès des gens autour d'elle. Je vais vous lire les versets 1 à 16 d'Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, je m'excuse, je voulais le mentionner, s'il y a des gens qui n'ont pas une Bible avec vous, juste avant que je lise, les placeurs, s'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois, vous n'avez pas une Bible, j'aurais dû le mentionner tout à l'heure. Juste lever la main, les placeurs vont tourner, s'il vous plaît, les frères, pour des gens qui ne seraient pas familiers dans Éphésiens 4 et vous la remettre, d'accord? Juste lever la main, il n'y a pas de gêne et puis on va vous remettre ça. Si vous n'en avez pas chez vous, partez avec, ça va nous faire plaisir. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, c'est Paul qui parle, le prisonnier dans le Seigneur, parce qu'il était dans les chaînes à ce moment-là à cause de l'Évangile, il avait été jeté en prison, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et là, Paul met l'accent sur l'unité. Il y a un seul corps, l'Église, un seul esprit. comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Là maintenant, Paul va parler de la diversité dans cette unité. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » J'expliquerai pas ces deux versets-là ce matin. Psaume 68, si vous voulez vraiment être mêlé, après ça, vous viendrez me voir. J'aurai pas le temps ce matin. Et il a donné, verset 11, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, mature, de femme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Quel passage, hein? Surtout la dernière section qui nous aide à voir la beauté de ce corps en action, le verset 16 particulièrement, où on peut voir cette Église qui est en train de vivre l'Évangile ensemble. Ce matin, ce que je veux faire, je veux souligner brièvement dans ce passage quatre éléments dans le passage qui nous aident à comprendre la vie de l'Église locale. Les éléments qui nous aident à comprendre cette vie, et ça peut vous aider cette année à trouver votre place dans l'Assemblée, dans l'Église de l'Espoir, à comprendre ce qui est attendu de vous, je crois, de la part de Dieu, afin que cette Église soit un témoignage pour cette ville. Et que ceux qui viennent nous visiter, ceux qui nous côtoient, ceux qui entrent en contact avec nous, commencent à saisir l'Évangile avant même qu'on ouvre la bouche pour leur expliquer par les fruits de l'Évangile. Premièrement, notre but. Bien, notre but, c'est la poursuite de la maturité à l'image de Christ. Notre objectif, devenir comme Jésus-Christ. Quand on lit les Évangiles, on découvre un personnage fascinant qui aimait les gens, qui se donnait, qui était vrai, qui aimait Dieu passionnément. Qui ne voudrait pas être comme Jésus-Christ? À part peut-être quelqu'un qui n'a jamais lu les Évangiles, qui ne voudrait pas être comme Jésus-Christ? Soit dit en passant, si votre réponse est « moi », probablement que vous n'avez pas lu les Évangiles. 170 pages environ, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Prenez le temps d'aller rencontrer cet homme qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Ça manque à votre culture si ce n'est pas là. Et ça pourrait manquer à votre vie. Alors je vous encourage à le faire. Mais toute personne qui est entrée en contact avec les Évangiles, avec ce personnage extraordinaire, Jésus-Christ, est bouleversée par ses qualités, par son amour, par sa tendresse, par sa sainteté, par son amour pour les hommes, par son amour pour Dieu, par son équilibre déboussolant de tendresse, en même temps de ferveur. Et c'est notre objectif, notre but à nous, c'est ressembler à Jésus-Christ, devenir à l'image du Fils de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour devenir comme lui. C'est notre poursuite jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Nous tendons vers Christ pour le saisir et devenir comme lui, à son image. Mon épouse Esther attend juste ça. Que je sois comme Jésus-Christ. Hein, chérie? Plus doux, plus tendre, plus compréhensif, plus juste. Esther attend juste ça. Je travaille là-dessus, chérie. Paul nous dit ce but au verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Remarquez qu'il est en train d'écrire à une église. Pensez-y un instant. Des chrétiens n'ont-ils pas connu Jésus-Christ? Comment peut-on être chrétien sans avoir connu Jésus-Christ? Mais il y a, comme je le disais tout à l'heure, pendant le temps de l'instruction chrétienne, la vie chrétienne, c'est comme un océan. On a amené les enfants au printemps au bord de la mer. Mes enfants peuvent s'avancer jusqu'à un certain point dans l'océan sans aucun problème. Et c'est ça l'Évangile, hein? Tu fais quelques pas, puis tu es déjà dedans. Tu es déjà dans l'Évangile, tu es déjà dans la foi. C'est pour ça que l'Évangile est simple pour un enfant de 3, 4, 5, 6 ans qui peut le saisir et venir à la connaissance de Jésus-Christ. Et pourtant, l'Évangile, c'est tout l'océan. C'est tout l'océan. Et donc, nous poursuivons cette connaissance. Nous nous avançons en eau profonde de plus en plus et réalisons que c'est immense, l'Évangile. L'amour de Dieu exprimé en Jésus-Christ. C'est de ça dont Paul parle ici. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, nous voulons le connaître davantage, être comme lui. À l'état d'homme fait, c'est notre maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est notre objectif, c'est notre but. Et tout ce que nous faisons en assemblée ici poursuit cet objectif-là. Ressembler à Jésus-Christ. C'est notre premier but. On travaille dans ce sens. Il est notre modèle, notre inspiration. C'est le premier élément que je voulais souligner. Notre but, la poursuite de la maturité à l'image de Christ. Deuxième élément que je veux souligner dans le texte ici, le perfectionnement des saints. Au verset 11 et suivant, Paul nous parle de ces hommes que Dieu a donnés à l'Église pour la formation de l'Église. Voyez-vous, là, qui parle de devenir à la stature parfaite de Christ parle de formation. On parle de perfectionnement. Si notre objectif, c'est de devenir comme Christ, ça implique de la formation, du perfectionnement des chrétiens. Je vous relis les versets 11 à 14. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Le temps me manque pour aller dans tous les détails puis aller voir le prophète, l'apôtre, tout ça. Ce serait le sujet d'une autre étude et analyser tout ça. Mais voyez-vous, au verset 14, au verset 11, il parle de perfectionnement, de formation. Il parle de formation du discernement. Verset 14, ça parle de discernement. Chers amis, nous vivons à une époque de concepts et d'idées. Tout dans notre société est concept. La publicité, j'ai aimé comment Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, tout le monde veut éduquer vos enfants. C'est vrai, la télévision veut le faire, les annonces veulent le faire. Tout est concept partout. Si vous n'en avez pas conscience, c'est juste que vous êtes formé, transformé, sans en avoir conscience, tout simplement. Nous vivons à une époque d'idées où il y a des idées qui viennent constamment, de plus en plus, toutes sortes de valeurs. Et n'allez pas croire que vous n'êtes pas affecté, formé, transformé par ces idées-là, que vous entendez par-ci, par-là, c'est certain que vous l'êtes. Et Dieu ne nous appelle pas à vivre comme dans un monastère, isolé, comme si on n'entendait pas ça, on se met des œillères, on n'est pas en contact avec ce monde-là. Au contraire, il y a tellement de belles choses. Il y a tellement de belles choses. Dieu nous demande à vivre parmi les hommes, au milieu de toutes ces idées-là, au milieu de toutes ces valeurs-là, au milieu de toute cette musique-là, de ces arts, de tout ce que ça transporte. Dieu nous demande de vivre au milieu de ça, non pas refermés sur nous-mêmes comme dans un monastère. On doit être au milieu des hommes pour aimer les hommes et leur témoigner de l'amour de Christ. Mais vivre dans une société qui lance constamment des idées, des opinions, des systèmes de valeurs demande du discernement. Rester ferme dans notre foi, grandir dans cette foi, avoir des réponses, avoir des explications, être capable de discerner le bien du mal à travers toutes ces choses-là, sans avoir comme seul réflexe de s'isoler et de se refermer sur nous-mêmes, demande du discernement. Il semble dans ce passage que c'est ça la voie que Christ veut que nous suivions, que nous grandissions dans notre discernement. Ainsi, lorsque Paul dit « Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine », il parle de discernement, de connaissance de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu. Comment est-ce que je vais pouvoir aider mon ami à venir à la connaissance de Jésus-Christ si je n'ai pas de discernement moi-même? Comment est-ce que je vais pouvoir engager une vraie discussion si je n'ai pas de réponse, si je n'ai pas de discernement, si je ne suis pas certain de ce que je crois, si je ne suis pas certain de ce que l'Évangile, de ce que les Écritures ont à dire sur tel ou tel sujet qui court actuellement? Je vous donne un exemple très rapidement. L'écologie, toutes les questions environnementales. Je suis royalement agacé quand la seule réponse que des chrétiens ont à dire, c'est « Ah, c'est le nouveau Dieu de ce siècle. » Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'agace. Il y a tellement de bon sens dans cette affaire-là. Mais en même temps, c'est quoi notre réponse à nous? Vous ne serez jamais pertinent dans votre évangélisation si tout ce que vous avez à dire, c'est ça, et si ces questions-là n'ont aucune importance à vos yeux. Pas ici, pas en ville. Pas ici. Vous allez vraiment apparaître comme quelqu'un qui vient d'une autre époque, qui ne vit pas dans son temps et qui n'a rien compris. Et eux autres vont vous prêcher un message. Ils vont vous dire « Ouvre tes yeux, mon grand. Allume la télé. » Alors, on doit avoir des réponses. On doit avoir des réponses à ça. Une partie de notre rôle à nous comme pasteurs, comme anciens, c'est d'équiper l'Église, de la former, d'aiguiser même la réflexion des chrétiens. C'est la responsabilité de chaque Église de le faire d'une manière ou d'une autre. Et ça m'amène à être très, très concret dans mon encouragement avec vous ce matin. Chers amis, la majorité d'entre nous, nous courons énormément toute la semaine. Nous sommes débordés d'activités, nous vivons au rythme de la ville et ça roule en ville. Et quand j'ai fini de courir un tout petit peu, Bastien me regarde et dit « Ok papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Ouais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bastien? Ah, on s'en va au vieux port, il y a une exposition, là, puis le bateau, puis tout ça, on s'en va visiter ça. On court, on roule, ça n'arrête pas. On vit au rythme de la ville. Esther et moi, on est en train de parler cette semaine seulement d'inscrire les enfants dans un cours de natation. La discussion m'épuisait. Elle me demandait, ouais, mais où ça rentre, ça, chérie, dans mon horaire? J'ai plus le temps pour ça. On vit au rythme de la ville et on est conscient de ça. On le comprend. Alors, d'une part, comme Église, nous avons la responsabilité de grandir dans notre connaissance, dans notre discernement. Et d'autre part, on court toute la semaine comme des fous parce qu'on vit en ville. C'est ça la réalité. Puis, il y a quelque chose de trépidant là-dedans, d'excitant. Alors, vous me voyez venir, j'imagine, dans ce souci de laisser le plus possible de temps à nos familles, de vous laisser du temps pour vous retrouver, pour faire les mille et une choses que vous avez à faire. Bien, on a décidé ici, comme assemblée, que l'essentiel de cette formation, de ce perfectionnement des chrétiens, allait se passer le dimanche matin de 9h à 11h45. C'est stratégique, c'est volontaire, c'est par souci d'honorer le mandat qui nous est confié et par amour pour vous. J'ai le goût de dire par amour pour moi aussi. On essaie de concentrer ça. De 9h à 11h45, on a une brochette de cours incroyable qu'on vous a présentée tout à l'heure pour les enfants, pour les moins jeunes et pour les moins jeunes, et puis pour toutes sortes de besoins, toutes sortes de situations. Et notre objectif, c'est de travailler au perfectionnement des saints, des chrétiens à travers ça. C'est de vous équiper, c'est d'aiguiser votre discernement, d'avoir des cours qui vont être non seulement théoriques, mais pratiques, qui vont répondre à des questions. Ainsi, ce qu'on vous demande pour nous aider à remplir ce mandat-là, c'est d'entrer dans cette vision et de faire l'effort de consacrer ce temps le dimanche matin. Il y a d'autres cours à l'Église ici. Norman l'a mentionné tout à l'heure, la formation des LSR, la théologie systématique, qui sont des dimanches soirs de la formation pour le leadership particulièrement. Mais déjà, si vous intégrez dans votre vie comme croyant, afin d'être pertinent, d'être là dans votre société, dans votre temps, dans votre époque, avec des réponses et une foi ferme, si déjà vous intégrez le dimanche matin, de 9 à 11h45, peut-être un petit peu plus ce matin, Si déjà vous intégrez ça, vous nous aidez à vous former, à s'investir dans vos vies. Et les profs qui sont là travaillent fort, se remettent en question. C'est vraiment beau à voir. On est dans une assemblée extrêmement privilégiée au niveau des enseignants. Les qualités ici dépassent de loin Normand et moi comme prédicateurs. Il y a d'autres excellents enseignants dans cette assemblée. De très, très bons cours. Solides et pratiques. Pour remplir ce mandat. Alors, un des objectifs que Dieu nous donne, c'est-à-dire de cette formation, c'est d'aiguiser le discernement, la connaissance des croyants. On veut vous aider à avoir ce discernement pour vivre dans notre temps. Mais en même temps, ça ne doit pas être juste une connaissance théorique. Au contraire, toute la formation vise le perfectionnement des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça m'amène à l'autre élément que je veux souligner. J'ai parlé du but, j'ai parlé du perfectionnement des chrétiens. Un autre élément que je veux souligner, c'est la diversité de dons et de personnes dans l'Église. Parce que le but, c'est l'œuvre du ministère par toute l'Assemblée, l'édification du corps de Christ. Dans une église, il y a toutes sortes de dons, il y a toutes sortes de personnes. On est tous différents ici ce matin, dans nos dons, dans les talents qu'on a, dans notre histoire. Et au verset 7, lorsque Paul dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ », ce n'est pas du salut dont il est question ici, c'est de ce qui vient avec la grâce dans la vie de chaque individu, les dons spirituels que Dieu nous donne. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est toute l'Église qui est en train de faire l'œuvre du ministère. Regardez avec moi le verset 11. Verset 12, « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Notre rôle à nous, les anciens, les pasteurs, c'est de vous équiper, vous, à faire l'œuvre du ministère. Ça, c'est notre rôle. Bien sûr, nous aussi, on a exercé notre don, à travers l'enseignement, la formation, à travers la direction. Donc, une partie de notre travail, c'est ça, c'est vrai. Mais notre mandat à nous, c'est de vous former afin que le corps, l'ensemble du corps, chacun d'entre vous, avec toutes nos différences, soit en train d'exercer ses dons, de servir le corps de Christ pour la gloire de Dieu. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Et ici, il est question des dons spirituels qui sont donnés à chaque enfant de Dieu. Et on va trouver des énumérations, des listes beaucoup plus complètes dans la lettre aux Romains, dans la lettre aux Corinthiens, des dons spirituels. Ici, Paul met l'accent sur quelques hommes en particulier, c'est ceux qui travaillent au perfectionnement. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Tous ceux qui sont venus à la connaissance de Jésus-Christ ont reçu des dons spirituels, un appel particulier dans leur service pour servir le corps de Christ. Ainsi, autant que nous sommes de chrétiens dans cette salle ce matin. Les seules personnes qui peuvent s'exclure à ce point-ci, c'est ceux qui n'ont pas encore choisi Jésus-Christ. Mais tous les autres, autant nous sommes de chrétiens dans cette salle, ici ce matin, autant il y a de chrétiens, autant il y a de dons. Et même deux enseignants. J'ai le goût même de nous donner un exemple, Normand et moi. Deux enseignants qui ont un don d'enseignement n'auront pas exactement le même don. Vous êtes dans la bonne assemblée pour le savoir. Nous sommes différents. Et c'est la richesse du corps de Christ, toutes ces différences. Deux enseignants n'auront même pas le même don. Ainsi, autant nous sommes, autant il y a de dons. Dieu se plaît dans la diversité. Paul dit à chacun de nous, chaque individu dans cette salle. C'est Dieu qui l'a créé, la diversité. Pensez-y un instant. Autant il y a de personnes sur la terre, autant il y a d'empreintes digitales différentes. Personne n'est pareil. C'est la même chose au niveau spirituel. Parce que les dons que Dieu nous a donnés viennent avec notre personnalité, avec notre histoire, avec nos acquis, avec nos épreuves. Et c'est à travers ça que les dons spirituels vont se manifester, que le service pour le corps va venir s'exprimer. Chacun, nous sommes différents. Maintenant, la beauté de l'Église s'exprime lorsque chaque chrétien met en œuvre ses dons pour servir le corps de Christ. Regardez bien le verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. tout le corps tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Ainsi, pour que le corps fonctionne au mieux, chaque partie du corps doit participer selon toute sa force. J'aime tellement la sensibilité de Paul ici. Chacun selon sa force, au moment où nous sommes, dans son histoire, là où il est rendu. Mais lorsque chacun des membres du corps vient participer ainsi, toute la beauté du corps est manifestée, est exprimée. Chaque partie du corps possède un rôle différent et une force différente. Et le corps manifeste toute sa beauté quand chacun des éléments entre en action. J'aime l'image du corps ici. Quand j'étais en train de me préparer, il y avait une autre image qui me venait à l'esprit, c'était l'image du souk à la corde. Vous connaissez ça? On a tout fait ça au secondaire, je pense. Avec cette grosse, grosse corde, les deux équipes sont divisées de chacun de leur côté. Et puis, on doit tirer vraiment bien coordonné, mais il y a une ligne. Et donc, l'objectif, c'est de faire basculer l'autre équipe, de la faire franchir la ligne. C'est l'image qui me venait lorsque je pensais à cet effort qui est coordonné ensemble, où toute l'équipe travaille ensemble. C'est l'effort coordonné qui produit la puissance. Il y a sûrement des leaders dans l'équipe qui aident à coordonner l'effort, qui aident à tirer en même temps, qui aident à travailler ensemble. Mais pour atteindre toute sa puissance, ça prend l'effort de tous. Imaginez un instant, retournez au secondaire, il y en avait toujours 3-4 qui étaient comme plus, tu sais. Évidemment, vous comprenez que je n'étais pas dans cette gang-là. Peut-être Normand avec ses 6 pieds, moi je n'étais pas dans la bonne gang. Alors imaginez toute l'équipe qui regarde les 2-3 gars plus forts, là, puis qui dit... OK, les boys, là, écoutez, on va être sérieux, là. Nous autres, on n'est pas assez forts. Vous allez aller là, puis nous, on va être vos supporters. On va être là, on va vous encourager, puis lâchez pas, les boys! Ça marche pas. Ça marche pas. Mettez 15 hommes de l'autre côté avec une force extrêmement moyenne, et je vous assure que ça va être beaucoup plus puissant. Toute la puissance se manifeste dans la combinaison de l'effort de chacun. Oui, mais moi, je suis pas assez fort. Ça n'a absolument aucune importance. C'est l'ensemble qui produit la puissance. C'est la même chose avec l'Église locale. C'est la présence de tous qui fait la différence. C'est le service de tous qui fait la différence. Vous savez, un ou une chrétienne peut être merveilleusement consacrée au Seigneur, peut être extrêmement brillant, super articulé, être un homme, une femme de prière, incroyable, avoir un beau témoignage. Et il y en a. Mais ce ne sera jamais aussi beau comme témoignage qu'une église locale qui vit l'Évangile ensemble. Ça ne sera jamais un témoignage aussi puissant. Je suis profondément convaincu de cela. C'est le projet de Dieu pour gagner cette ville pour Christ. Pas des individus extraordinaires. Des gens ordinaires qui vivent l'Évangile ensemble. C'est ça qui va bouleverser. Vous savez, des gens extraordinaires, il y en a partout. Vous avez juste allumé la télé, il y a des gens pas mal plus forts que nous autres. Brillants, talentueux, excessifs dans leur don de soi. Il y a des histoires extraordinaires. Lisez le journal. Il y a des gens qui se démarquent d'une manière incroyable. C'est correct dans un sens. Des beaux témoignages, c'est bouleversant. Hein? Des George Muller, des William Carey. Je pense à Tony Anthony qui va venir au printemps. C'est stimulant pour nous, c'est encourageant. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe en chacun d'entre nous, puis dans le cœur des personnes qui viennent nous visiter, qui nous côtoient. Il y a quelque chose d'irréel là-dedans. Hein? Il y a comme une distance. Je me souviens, Kim Fook, lorsqu'elle est venue, moi je suis allé manger avec elle, je suis allé déjeuner avec elle, assez pour savoir que c'est une dame toute simple et toute ordinaire. Mais quand vous l'avez vue en avant, vous avez dit « cette personne-là n'est pas ordinaire ». Il y a quelque chose d'extraordinaire en elle. Puis je suis certain que plusieurs se sont dit, moi, j'aurais pas pu pardonner tout ça. C'est pas vrai. L'Évangile l'aurait fait dans votre cœur. Mais il y a quelque chose d'irréel dans ces gens un peu extraordinaires, qui devient très, très réel et concret lorsqu'on voit une communauté de gens ordinaires, comme vous et moi, qui vivent ensemble l'Évangile au quotidien, qui apprennent à s'aimer, à se pardonner, à marcher ensemble, à grandir ensemble, à évoluer ensemble. Et c'est pour ça que la vie du corps local est tellement importante. Maintenant, soyons concrets. Comment est-ce que vous pouvez placer vos dons? Parce que si vous avez choisi de suivre Jésus-Christ, si vous avez passé par les eaux du baptême pour en rendre un témoignage public devant tous, le Saint-Esprit est en vous, je vous l'assure. Et vous avez reçu des dons spirituels. Alors soyons concrets. Comment pouvez-vous mettre vos dons au service des autres dans cette église afin que cette assemblée brille pour Christ dans cette ville aujourd'hui? Premièrement, témoignez de votre attachement à l'assemblée en devenant membre. Prenez le cours avec Michel, l'église de l'espoir. Attachez-vous à l'assemblée, devenez membre. En devenant membre, ce que vous dites à l'église, je crois que Dieu m'appelle à m'attacher à cette église. Je me place sous la direction de cette assemblée et de ses anciens. En devenant membre, ce que vous dites à l'assemblée, c'est je veux vous servir. Je veux grandir ici avec vous. Je ne suis plus un visiteur. Je fais partie du corps ici. Deuxièmement, en vous joignant à un petit groupe. Regardez combien est-ce qu'on est ici ce matin. Il y a une partie de la vie de l'Évangile qui est physiquement impossible à vivre ensemble ce matin. Vous ne vivrez pas ici ce matin ce qu'on a vécu dans notre petit groupe cette semaine, mercredi soir. C'est impossible mathématiquement, à moins que vous alliez vous cacher dans un coin avec 3-4 personnes. Alors, on a des petits groupes dans l'Assemblée ici. On a un ministère des petits groupes. Où est-ce que Michel, peux-tu te lever juste un instant? Michel Famille est responsable. Il se tient généralement à l'arrière. Allez l'accrocher, qu'il puisse vous diriger vers un petit groupe. Mais à la deuxième étape, joignez-vous à un petit groupe. On a 15 petits groupes un peu partout sur la rive sud qui se réunissent un peu n'importe quand dans la semaine, du dimanche soir, tous les soirs de la semaine, à différents moments. Et c'est dans ce contexte d'intimité qu'on peut prendre soin les uns des autres, premièrement. Prendre connaissance d'un besoin, d'un repas à préparer, d'un coup de main à donner. Une sœur qui a besoin d'encouragement, une parole de réconfort. C'est là qu'on relève un besoin puis qu'on se rend prendre un café. C'est là que ça se passe, premièrement. C'est dans ces moments-là, lorsqu'on va connecter ensemble, à l'intérieur des petits groupes, lorsqu'on va connecter ensemble. Troisièmement, bien, je vous dirais à travers la vie du petit groupe, si ce n'est pas déjà fait, apprendre à connaître les besoins de l'Assemblée, en discutant avec le responsable de votre groupe qui va pouvoir vous mettre en contact avec toutes sortes de besoins. Le Seigneur va vous conduire à vous impliquer dans l'évangélisation, l'accueil qui est tellement importante le dimanche matin, dans l'école du dimanche, dans la jeunesse, dans l'entretien du bâtiment, dans la prière, dans la bouffe pour tous, etc., etc., etc. Mais ça passe par ces étapes-là pour entrer en contact. En vous joignant à un petit groupe, vous connectez avec le corps. C'est ça que vous faites. Vous savez, Normand et moi, on n'est pas les meilleurs pour vous connecter. C'est comme s'il ne reste plus de prix.